spirituel aujourd'hui sera question d'une Québécoise, Madame François-Xavier Roy, une mère de famille qui a vécu dans la première moitié du siècle dernier et qui en est arrivée au milieu de sa vie, vers l'âge de 50 ans, après avoir élevé sa famille, a fondé le Bon Pasteur de Québec, qui est très renommé, très réputé dans la région là-bas et même à travers le monde. Son nom de fille, c'était Marie-Josephte Fitzbach. Fitzbach, c'est un nom allemand, en fait c'est un nom luxembourgeois si l'on préfère, puisque son père est arrivé en 1759 avec l'armée anglaise à la conquête de notre pays. Et M. Fitzbach, finalement, s'est marié, même plusieurs fois, a épousé, entre autres, une femme de la même origine que lui, puis ensuite deux Québécoises, dont Marie-Joseph Fitzbach, qui lui a donné 8 enfants. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. C'est toute une histoire que la vie de cette femme extraordinaire, qui est une sainte au fond. Une Québécoise extraordinaire, remarquable. Certains de nos auteurs contemporains s'imaginent que la réhabilitation des gens abandonnés, c'est une conquête du 20e siècle. Ils oublient qu'au fond, dès peut-être l'origine du monde, on s'est intéressé dans le cœur des hommes et des femmes à s'occuper des plus malheureux. Dieu, au fond de l'homme et de la femme, est toujours à la recherche du cœur de ceux qui sont les plus malheureux. C'est pour ça qu'il suscite des gens extraordinaires, comme Marie-Josephte Fitzbach. Je dis Josephte, c'est Joseph avec un T-E à la fin. On est tous réhabilités, au fond, par le Christ. Nous sommes tous des pécheurs. Et les grands réhabilités ne sont que parfois désignés par Jésus dans l'Évangile, comme devant être devant nous au paradis, indique que les prostituées seront devant nous au paradis. La mission de Jésus quand il s'est incarné, là, le Verbe incarné, ça a été vraiment d'arracher le monde à la misère. Son plus beau titre, on l'appelle, c'est le Rédempteur du monde, c'est-à-dire celui qui arrache à la platitude et au péché les foules entières pour les élever à la liberté, à la joie, au bonheur. C'est lui qui racontait Jésus, « Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs ». Jésus contait d'ailleurs cette belle parabole de l'enfant prodigue, que mon fils Guy aimait tellement, c'était sa parabole préférée, il en pleurait. C'est l'enfant prodigue qui est accueilli tendrement par son père. Jésus a aussi raconté la parabole, vous savez, de la brebis perdue, que le bon pasteur retrouve, puis il porte sur ses épaules. Alors c'est à ce souvenir de l'Évangile que le bon pasteur de Québec a emprunté son titre, le Bon Pasteur de Québec, fondé par Marie-Josephte Fitzpack. C'est la réalisation de cette parabole que le Bon Pasteur de Québec poursuit. Je dédie cette émission à une sœur du Bon Pasteur qui a 96 ans et qui est la tante de M. René Barbin, directeur des programmes et finalement aussi, en somme, le fondateur de Radio Ville-Marie. Il y avait un homme important à Québec, Georges Manly-Muir, un avocat, qui avait au cœur l'amour des hommes puis le dévouement total auprès des gens les plus délaissés. Il était, en sa qualité de président de la Société Saint-Vincent-de-Paul, il était souvent appelé à visiter le département des femmes de la prison de Québec, puis il a pu ainsi constater que ces pauvres femmes sont souvent des âmes de bonne volonté, qui se trompent de voie, qui cherchent le bonheur où il ne se trouve pas. On pourrait dire qu'aujourd'hui, ces femmes sont innombrables. Elles sont dans tous les milieux, même suivant les plus à l'aise et les plus instruits. On ne s'en rend pas compte, mais elles sont du même type. C'est l'argent qui les sauve, leur travail, etc. Mais elles cherchent le bonheur où ils ne se trouvent pas. Alors, touché de compassion, cet homme, Muir, M-U-I-R, cet homme de bien, il décide de fonder un refuge pour ces femmes qui voudraient changer de vie puis devenir comme Marie-Madeleine, la convertie du Christ. Alors, il lui reste à plaider sa cause pour en assurer la fondation, et M. Muir le fait avec son cœur puis avec l'Évangile. On peut dire que l'entreprise ne tend à rien moins qu'à refaire au 19e siècle un des gestes les plus beaux de notre Seigneur. Vous vous souvenez, c'est celui par lequel Jésus, après avoir pardonné à Madeleine, là, accepte son hommage. Puis la réhabilite aux yeux de la société. Je vais vous en parler de Marie-Madeleine le 22 octobre. Bien que le projet soit audacieux, le Conseil de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec consent, devant la persuasion de M. Muir, qui est un avocat, un chrétien convaincu, à fournir pour la fondation naissante, imaginez, 2,5 $ par semaine et 16 cordes de bois de chauffage. Ça prenait pas beaucoup d'argent à l'époque pour aider beaucoup de monde, hein, mais les dollars ne valaient pas ce qu'ils valent aujourd'hui. Informé de cette décision, le curé de la cathédrale, M. l'abbé Charles-François Baillargeon, qui va devenir archevêque de Québec, il dit qu'il va payer le loyer de la maison. Une maison à laquelle il donne le nom, d'ailleurs, d'Asile Sainte-Madeleine. Et c'est un début bien modeste. C'est la marque de fabrique, d'ailleurs, des œuvres de Dieu, tout au long de l'histoire de l'Église, ici, au Québec et à Montréal. Hein. Et le fondateur d'une œuvre du même genre disait, « Donnez-moi quelques femmes prêtes à tous les dévouements, des femmes dont le nom soit demeuré sans tache et qui, mues par un généreux dessein de marcher sur les traces du Maître, ne dédaigne pas s'abaisser comme lui, pour relever les âmes tombées, leur tendre la main, les réconforter. Alors, mon rêve se réalise, et le refuge est fondé. C'est pas plus compliqué que ça, dans ce temps-là, mais aujourd'hui, où trouver tout ce monde? La femme dont le dévouement est capable de faire réussir cette œuvre, ben Dieu l'a préparée. Au fondateur de l'asile Sainte-Madeleine, en la personne de Mme François-Xavier Roy, comme je vous ai dit, qui est née Marie-Joseph Fitzpack. C'est la fondatrice vraiment extraordinaire du Bon Pasteur de Québec. Faut pas confondre les sœurs du Bon Pasteur de Montréal, qui sont pas de Québec, elles sont Bon Pasteur d'Angers, en France. Alors, Marie-Joseph Fitzpack a des qualités spéciales. C'est une âme de foi. C'est un cœur assez plein de l'amour de Dieu pour l'imiter, justement, dans la recherche de ce qu'on appelle les âmes tombées. Pourquoi pas, oui, des âmes tombées. Elle a un caractère énergique, d'un esprit pratique aussi, juste, modéré. Elle a un bon sens remarquable, une charité discrète. Madame François-Xavier Roy est façonnée par la mission de miséricorde et de relèvement à laquelle Dieu la destine. En un mot, elle est digne d'être le modèle de centaines de religieuses du Bon Pasteur qui vont la suivre au cours des 150 dernières années. Marie-Joseph Fitzpack est née à Saint-Vallier, c'est dans la région de Bellechasse. Saint-Vallier, c'est surtout connu, vous vous souvenez, pour la Corriveau. On parle toujours de la Corriveau, cette pauvre femme qui aurait assassiné son mari. Et même, on dit dans certaines histoires, 4 maris, c'est exagéré. Mais on ne parle pas de Marie-Joseph Fitzpack qui était une sainte. Elle est née à Saint-Vallier, donc, le 16 octobre 1806. Son père, comme je vous ai dit, était originaire du Grand-Duché de Luxembourg. Il était venu en 1759 au Canada. Il était jeune encore. Il était au service de l'armée anglaise au moment de la conquête. Et l'enfance de la future fondatrice du Bon Pasteur de Québec n'offre rien de particulier si ce n'est des difficultés à répétition, des difficultés. Elle n'a pas eu le temps beaucoup de s'amuser, j'ai l'impression. Établie à Saint-Vallier, son père avait épousé en troisième noces, hein, une jeune fille de la paroisse de Saint-Michel de Bellechasse, qui s'appelait Geneviève Nadeau, qui est morte en 1852. Mais un peu plus de 50 ans. Les 8 enfants sont nés de cette union, dont Marie-Joseph, qui est restée la Benjamine après la mort précoce de sa petite sœur. Et l'enfance puis l'adolescence de Marie-Joseph comme la suite de ces années d'ailleurs. C'est tout jalonné, c'est épouvantable par des déracinements successifs et douloureux. Cette fillette ne s'est pas repliée sur elle-même pour autant. Au contraire, très tôt, là, son cœur apprend d'expérience. On pourrait dire, qu'est-ce qu'il apprend? C'est l'évangile de la compassion qu'il apprend. L'évangile de la compassion. Elle n'avait pas atteint ses 2 ans d'abord quand son père est mort. Il laissait une veuve puis des orphelins en bas âge. Et 4 ans plus tard, Mme Fitzpack, sa mère, se remarie. Puis du même coup, la famille quitte Saint-Vallier pour se transplanter à Saint-Charles, c'est la paroisse voisine. Elle épouse Joseph Leclerc. C'est son nouveau mari qui s'est bâti une maison. Et pour Marie-Joseph, qui garde son nom de Fitzpack, l'horizon n'est plus le même. Les perspectives de son existence s'élargissent. L'un après l'autre, ses frères et sœurs quittent la maison où de nouveaux berceaux là, remplacent ceux qui partent. Et en ce temps-là, bien le Canada, le Québec, le Canada français, connaît la période la plus sombre de son histoire en matière d'éducation. Hein. C'est la résistance de la population à l'institution royale de 1801 qui s'est concrétisée. On s'absente de toute fréquentation scolaire. Pourquoi? Parce que l'évêque Mountain, l'évêque anglican de Québec, a obtenu qu'on n'établisse que des écoles anglaises, et même protestantes, ou anglicanes si vous préférez, pour essayer de transformer cette population de nos ancêtres, pour en faire des anglo-protestants. Alors on refuse, on ne va pas à l'école. Et dans la famille Fitzpack, si l'on en juge par les actes de mariage subséquents, ben aucun enfant ne sait ni lire ni écrire, puisque chacun à tour de rôle déclare ne pas pouvoir signer. Vous savez, on accuse toujours l'Église de ne pas nous avoir enseigné quoi que ce soit, mais quoi? Ce sont les suites de la conquête. Il faut le lire dans l'histoire, il faut lire. Alors Marie, dont l'intelligence est vive et le caractère bien trempé, elle souffre de cet état d'ignorance. Alors, grâce à sa mère, cependant, elle apprend si bien ses prières et son catéchisme que le curé de la paroisse la prend comme monitrice pour l'enseignement préparatoire à la première communion, puis lui confie les plus récalcitrants parmi les jeunes candidats. Puis elle finit toujours par les gagner, parce qu'elle est éloquente. Elle a du caractère. La petite Marie-Joseph Fitzpack, quand elle parle des choses de Dieu, elle en parle avec conviction. Elle est déjà orientée toute vers Dieu. C'est une petite Québécoise remarquable. Son premier contact avec l'Eucharistie, ça semble lui avoir apporté une grâce particulière d'union au Seigneur. Et ça arrive à beaucoup d'enfants catholiques, ça, hein? Beaucoup plus qu'on pense. Peut-être moins aujourd'hui, mais c'était très fort autrefois. Et sa piété à cette petite fille va retenir à partir de là une sorte d'empreinte. Elle commence à s'adonner à la vie intérieure. Oui, ça existe chez bien des enfants. Vous savez, ils faisaient la première communion vers l'âge de 11 ans. Elle rêve d'une existence toute livrée au seul amour de Dieu. Mais l'avenir immédiat lui réserve des tournants épouvantables qui vont la dérouter. À peine entrée dans son adolescence, en effet, elle doit quitter son foyer et son patelin qui est si beau là-bas, dans le comté de Bellechasse. Son tour est venu de prendre le chemin de la ville de Québec pour y gagner son pain. On dirait que Dieu prépare la jeune Marie-Joseph de Fitzpack à se détacher des consolations, en apparence au fond les plus légitimes. Il forme son cœur à aimer les autres. Aimer les autres. Jusque dans le sacrifice, déjà à son âge. Et ainsi la vie de cette jeune fille s'imprègne de foi. S'imprègne aussi d'abnégation, mon Dieu. Le mot abnégation, est-ce qu'on sait même comment ça s'écrit de nos jours? Il paraît que oui, beaucoup plus qu'on pense. On dirait que non, d'après les nouvelles et ce qu'on entend. Mais encore beaucoup d'abnégation ici au Québec. Et beaucoup de courage aussi. Ce sont des vertus indispensables, on peut dire, hein, pour quiconque est appelé à fonder une congrégation religieuse, ou quiconque est appelé à mener un foyer à bon port, une famille. Qui pourra jamais mesurer la douleur, l'inquiétude de cet enfant de 12 ans, obligé d'abandonner un environnement paisible, un environnement qu'elle aime, pour chercher dans un Québec inconnu et mystérieux le travail nécessaire à sa subsistance. Elle est débrouillarde. Elle inspire confiance aussi. Et ça n'a pas été long. Cependant, elle a trouvé un emploi chez un riche marchand de la Haute-Ville, François-Xavier Roy, que plus tard, elle va marier. François-Xavier Roy. Sa femme, à cet homme, Madame Roy, est de santé plutôt frêle. Et Madame Roy avait besoin d'appui pour gouverner la maison. Alors l'adolescente, le mari Joseph de Fitzpack, la future Madame Roy, est quasi l'envoyée du ciel dans ce foyer où deux enfants réclament de l'attention. Il y a la mère aussi qui a besoin de soins assidus, elle est un peu malade. Puis aussi, il y a la clientèle, car ce monsieur Roy est un commerçant, une clientèle nombreuse qui a besoin d'être servie. Alors Marie se prête à toutes ses tâches. Elle paie même un étudiant du séminaire de Québec pour en recevoir des cours privés de français puis de calcul. Et dans ses temps libres, elle visite les malades. Oui, c'est une visiteuse de malades, malgré toutes ses occupations. Elle va dans les salles de l'Hôtel-Dieu où les religieuses y confient les femmes les plus délaissées. Ça commence. Elle s'intéresse aux femmes les plus délaissées. À l'église Notre-Dame de Québec, on la retrouve de temps à autre, quand elle a le temps, on retrouve cette jeune Marie-Joseph en prière. C'est depuis longtemps son occupation favorite. Elle est guidée aussi par des maîtres spirituels assez expérimentés à Québec, des bons prêtres. Elle avance rapidement dans ce qu'on appelle les voies de Dieu, le chemin intérieur à la découverte de Dieu qui nous habite au plus intime de nous-mêmes. Nous sommes alors là vers 1821. Le monastère des Ursulines attire son cœur. Elle frappe à la porte des Ursulines, mais c'est en vain. On ne l'accepte pas au noviciat. Pourtant, cette adolescente était devenue une jeune fille. La direction d'un foyer de bonne société de M. François-Xavier Roy, ça l'avait mûri. Puis l'approfondissement de sa relation à Dieu dans la prière l'a de plus en plus affiné, on pourrait dire, sculpté son âme. Et son dévouement aux autres, qui est empreint d'amour et de bonté, l'a fortifiée aussi dans le don d'elle-même, mais l'une après l'autre, les portes des couvents se ferment devant elle. On la trouve un peu frêle. La future fondatrice va passer par tous les états de vie avant d'en pratiquer toutes les vertus et de pouvoir devenir un exemple comme jeune fille, comme épouse, comme mère chrétienne et finalement comme religieuse. Pour l'instant, il y a une circonstance inattendue. C'est la mort prématurée de Madame Roy dont elle s'occupe. Ça change le cours de sa vie de travail et d'occupation sans nombre. Monsieur Roy est désemparé devant la mort de sa femme. Il liquide son commerce. Il achète une propriété à Cap-Santé à Portneuf, où il se retire avec ses deux enfants. Alors Marie-Joseph Fitzpack se cherche à nouveau de l'emploi. Comme je vous ai dit, elle a 21 ans. Le vide causé par le départ de Mademoiselle Fitzpack de la maison de Monsieur Roy est vivement ressenti. Monsieur Roy trouve difficile de se passer des services de cette jeune fille remarquable qui est douée d'une rare qualité de relation et puis d'une très bonne intelligence aussi dans la façon de rendre service. Il se demande si cette jeune, disons, intendante ou gouvernante, je sais pas comment appeler ça, accepterait de remplacer l'épouse et la mère qui est disparue. Alors elle est bouleversée par cette demande en mariage parce que l'espérance de se consacrer à Dieu et aux œuvres de charité ne la quitte pas. Alors Marie-Joseph Fitzpack va dire oui à cet appel de Monsieur Roy. Cet appel qui lui manifeste de façon étrange une volonté de Dieu. Alors Marie-Joseph de Fitzpack épouse M. François-Xavier Roy le 17 avril 1828. Dans la bien jolie maison de Cap-Santé, Marie-Joseph Fitzpac retrouve avec ses racines de campagnarde une, on pourrait appeler ça une gratuité de vie, hein, qui lui permet de mettre à contribution toutes ses possibilités. Le curé, le pasteur de la paroisse, peut toujours compter sur elle pour aider quelques malheureux, soulager quelques misères, et même aussi pour enseigner le catéchisme à des ribambelles d'enfants. Alors le foyer roi, de nouveau comblé par la naissance de trois filles, hein, demeure ouvert. Les riches, les pauvres y reçoivent même accueil, puis la même gentillesse. Mais hélas, le bonheur paisible de la nouvelle Madame François-Xavier Roy est de courte durée. Son époux, imaginez, meurt le 15 septembre 1833. Ils se sont mariés 5 ans plus tôt. C'est incroyable, hein? Elle n'a pas encore 27 ans. Alors Marie-Joseph Fitzpac, Madame François-Xavier Roy, se retrouve seule donc avec ses trois filles, et dans un état voisin de pauvreté. Il faut dire que sa belle famille, les Rois, ont réclamé la garde des deux premiers enfants qui étaient issus du premier mariage. Ils ont réclamé aussi la plus grande part de l'héritage paternel. Elle est laissée dans la pauvreté. Marie-Joseph est désireuse envers et contre tout d'assurer à ses trois filles une éducation soignée. Alors elle offre ses services à l'abbé Michel Dufresne, curé de Saint-Gervais de Bellechasse, qui est à la recherche d'une gouvernante pour son presbytère. Imaginez ce qui va arriver, c'est incroyable. La sécurité matérielle et spirituelle, ça lui convient dans ce milieu du presbytère. Mais le décès tragique du curé Dufresne, qui se noie en traversant une rivière dangereuse, met fin à tout cela. Encore la mort. C'est épouvantable. Ce sont des deuils qui se multiplient sans cesse. Le plus cruel, c'est sans contredit celui de sa fille cadette, Clorinde. Curieux nom, hein? Clorinde. C-L-O-R-I-N-D-E. Qui est emportée par une maladie de langueur, comme on disait à l'époque. Probablement la tuberculose. À l'âge de 14 ans. C'est trop de tristesse. Les forces physiques de Madame Roy menacent de l'abandonner, elle n'en peut plus. Mais dans un sursaut d'énergie, elle reprend goût à la vie. Parce qu'il y a ses deux aînés qu'elle aime, elle les aime tendrement, ses deux filles aînées. C'est un nouveau détachement pourtant. Ces deux filles aînées, une fois leurs études terminées à Québec, demandent leur admission au noviciat des Sœurs de la Charité en voie de s'établir à Québec, imaginez. Et 2 ans plus tard, après être entrées, elles font leur vœu de profession. La plus âgée sous le nom de Marie de Bon Secours, et la seconde sous celui de Marie de Saint-Pierre. Alors que va faire la mère? Elle est heureuse au fond de son cœur de la vocation de ses deux filles, mais elle est tellement peinée de devoir s'en séparer. Elle est seule. Elle ne peut être admise avec elle au noviciat des Sœurs de la Charité. Elle est un peu trop âgée. Alors, elle va partager quand même leur toit, à titre de dame pensionnaire. Et c'est enfin son port d'attache, tant désiré, être dans un couvent, près de Dieu, qu'elle aura le temps de contempler à loisir. Elle va être près de ses deux filles, avec qui elle va pouvoir échanger ses soucis, ses joies et ses espérances. Et nous verrons tout à l'heure le développement de la vie extraordinaire de cette mère de famille québécoise, Marie-Joseph Fitzpac, Madame François-Xavier Roy. Je vous ai parlé au début d'un monsieur Muir, un avocat de Québec, qui avait fondé un asile pour les femmes délaissées. Et quand Marie-Joseph de Fitzpac, Madame Roy, se retire auprès de ses deux filles chez les Sœurs de la Charité de Québec, eh bien c'est là que la confiance de Monseigneur Pierre Flavien Turgeon vient la chercher pour la mettre à la tête du refuge auquel M. Muir, ce catholique, digne de figurer au côté, à mon avis, du bienheureux Frédéric Ozanam, cet employé, de façon absolument extraordinaire. C'était un homme extraordinaire que M. Muir. C'est un Ozanam, inconnu. Nous avons ici dans notre histoire beaucoup de saints que l'on ignore. Quel dommage! Alors, Monseigneur Turgeon envoie auprès de Madame Roy l'abbé Louis Proux, qui est curé de Notre-Dame de Québec. C'est lui qui lui expose le désir de l'archevêque. On rapporte ce dialogue dans les vieux textes. Ne vous sentiriez-vous pas trop de répugnance à prendre soin des malheureuses pécheresses qu'on veut rassembler à l'asile Sainte-Madeleine? Des pécheresses. Nous sommes tous des pécheurs. Elles sont plus malheureuses que les autres parce qu'elles n'ont nulle part où aller. Et comme dit l'une d'entre elles à M. Muir un jour, quand nous sortons de prison, nous sommes sans ressources, et personne ne veut nous recevoir sinon des maisons mal famées. C'est pourquoi vous nous revoyez toujours derrière les mêmes barreaux. C'est dire que pour aider ces femmes, il faut leur offrir un toit. Ça existe à Montréal, la maison grise, ouverte par une sœur grise. Il y a d'autres maisons aussi. Offrir un toit à ces pauvres femmes en quête d'une main. Une main tendue. Tendue pour aider, non pas pour s'en emparer. Et l'avocat Muir a été à l'origine de tout ça. Alors, entendant cet appel, Madame Roy hésite. Elle hésite devant cette proposition inattendue de son évêque. Mais elle se hâte finalement de remettre au fond de son cœur ce premier mouvement. Elle veut pas laisser voir le combat intérieur qui se livre en elle. C'est la lutte entre, évidemment, la nature et la grâce. Et d'un côté, elle voit des dégoûts, des humiliations, des difficultés de tout genre. Et de l'autre, ah, c'est son grand esprit de foi qui lui montre la conversion, le salut de quantité d'âmes que Jésus-Christ veut libérer puis rendre heureuse enfin. Alors l'invitation de l'évêque, Monseigneur Turgeon, lui semble bien l'expression d'un désir du ciel. Elle se recueille quelque temps. Elle répond qu'elle réfléchira. Elle va prier. Elle va consulter. Et restée seule, Madame Roy est saisie d'une agitation extrême. Le fardeau lui semble trop lourd. Elle n'est plus jeune. Le découragement s'empare d'elle. Elle a 50 ans. Elle a recours à son grand remède, la prière. Puis elle tombe au pied d'un crucifix. Et elle s'écrie, ce sont les paroles, dit-on, authentiques. « Oh mon Dieu, en entrant ici, j'avais rêvé de finir mes jours avec les épouses du Christ. Et voilà que je vais les passer avec les femmes perdues. Si du moins je pouvais espérer faire de quelques-unes de ces malheureuses de véritables madeleines, animées du même amour pour vous. Animées du même amour pour vous. » Et dans cette contemplation du Christ expirant en croix pour les âmes, elle reçoit la force d'aller jusqu'au bout. En se relevant, elle se trouve affirmée. Au trouble et à l'agitation, a succédé dans son cœur le calme et surtout la lumière. La vertu de sa vocation, comme celle d'ailleurs de tous ceux qui se veulent apôtres, découle de l'oraison. On ne le dira jamais assez. Il faut prier. Prier chaque jour au moins une heure au total avec la messe. Une heure. C'est ce qu'on accorde aux nouvelles chaque jour. Même plus. Une heure pour Dieu, ça transforme la vie. Et c'est de là, en effet, que jaillisse la lumière et la force pour les œuvres surnaturelles. Il suffit de prier, et Madame Roy se rend sur le champ, à l'archevêché, et elle se jette aux pieds de son évêque. Elle lui dit, vous savez qu'on se jetait aux pieds des évêques à l'époque, même dans mon jeune temps, on faisait ça. J'ai connu ça, on faisait ça jusqu'en 1950, 55. Monseigneur, je suis votre humble servante. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Je regarderai votre volonté comme celle de Dieu. Il y avait quelque chose de beau dans le fait de se jeter aux pieds des évêques comme aux pieds de son père. Mais évidemment qu'il faut comprendre le sens de ces gestes. On comprend mal le sens des gestes aujourd'hui. On a perdu le sens des symboles souvent. Elle considérera, d'ailleurs, Marie-Joseph Fitzbach, elle considérera toujours cette promesse comme un vœu d'obéissance. Elle va y conformer toute sa vie. « Faites de moi ce qu'il vous plaira, je regarderai votre volonté comme celle de Dieu. » Elle avait le sens de l'obéissance qui mène à l'amour profond de Dieu. Dieu se plaît à mettre de côté les moyens humains quand il veut susciter dans l'Église une nouvelle famille religieuse. Il prend alors plaisir, on dirait, à déployer sa puissance, à faire ressortir l'action secrète mais souveraine qu'il exerce, lui, sur la destinée des âmes. C'est pas sans un déchirement de cœur bien cruel que Madame Roy quitte le 11 janvier 1850 l'hospice de la Charité où se trouvent ses deux filles comme religieuses. Elle est accompagnée, heureusement, d'une bonne personne que les sœurs de la Charité ont eu l'obligeance de lui céder. Et elle se rend à la petite maison de la rue Richelieu qui a été louée par Monseigneur l'archevêque. Monsieur Muir porte une croix noire. Et c'est la croix qui entre la première. Le fondateur, qui les a devancés, la remet, la croix, à Madame Roy en lui disant « Ce sera votre enseigne, hein, comme on dit l'enseigne devant un magasin. » Depuis, il y a toujours eu une croix de bois noir qui domine l'entrée principale du monastère du Bon Pasteur à Québec. Mais quel triste logement qui leur est réservé, quel dénuement. Et dans une des pièces, elle trouve un poêle hors d'usage prêté par un voisin. Alors M. Muir, qui est avocat, le magistrat, se met en train de le monter. Il substitue aux pattes cassées deux bûches de bois. Puis, je vous le rappelle, c'est un avocat, il apporte de l'eau. Il scie lui-même le bois dont elles auront besoin de se chauffer ce jour-là. Je vous ai dit, c'est une sorte de Frédéric Ozanam. Dans la matinée du 12 janvier 1850, Madame Roy ouvre la porte à deux jeunes filles, deux sœurs, dont l'une est aussi distinguée que l'autre est plutôt dégradée. La première remet à la fondatrice une lettre du révérend père Louis Saché, un jésuite, nommé directeur spirituel du refuge. Et elle y lit ces mots. C'est pas long, hein? Le divin pasteur vous l'envoie. Et le mot pasteur lui reste au cœur. Hein? C'est de là que vient que ça s'appelle le bon pasteur. Madame Roy a compris. Elle accueille donc, avec une compassion de vraie mère qu'elle est, mère de famille, doublée d'un sentiment de joie, semblable à celle du bon pasteur qui portait sa brebis sur ses épaules, elle reçoit donc avec beaucoup de compassion la pauvre femme dévoyée qu'on vient de lui amener. C'est sa première pénitente. L'œuvre est fondée, ça y est, ça y est. Et le 12 janvier sera la date commémorative des grâces puis des miséricordes de Dieu. On restreint à 8 le nombre des pénitentes à admettre. Les ressources ne permettant pas d'en recevoir davantage. Le vendredi saint de cette même année 1850, il y a une 9e qui se présente et Madame Roy doit la renvoyer parce qu'il n'y a pas de place. Alors, les autres pénitentes se jettent à genoux, demandent la faveur de la malheureuse pour qu'on l'accepte. Elle s'offre à partager avec elle leur nourriture. Il y a même une des pénitentes, une des pauvres femmes qui dit « Ma mère, souvenez-vous qu'à pareil jour, le vendredi saint, Barabbas a été sauvé ?»« Oui, répondit Madame Roy, mais aussi à pareil jour, Jésus, le juste, a été condamné. N'oubliez pas que si cette pauvre enfant est cependant obligée de partir, elle aura un compte moins rigoureux à rendre dans l'au-delà. » Un peu dur peut-être. La pauvre pénitente s'éloigne donc, mais au jour de Pâques, dès le matin, on la retrouve au seuil de l'asile. Et là, Madame Roy ne peut plus résister. C'est la résurrection. Elle est définitivement accueillie. Le désintéressement de cette mère fondatrice, parce qu'il était le fruit d'une grande charité, puis d'une confiance illimitée en la Providence, a été couronné de succès. Dès l'automne de la même année, le personnel de l'asile, tant les directrices que les pénitentes, étaient tels qu'on s'est vu obligé de chercher un local plus vaste. Alors la Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec s'est penché une fois de plus sur son institut. Mais par son intermédiaire, la jeune association a fait l'acquisition d'une maison plus vaste, au Faubourg Saint-Louis, au coin des rues La Chevrotière et Saint-Amable, avec un terrain relativement vaste. Vous verrez que cet asile deviendra une communauté régulière, avait dit à Mademoiselle Marianne Anger, devenue plus tard mère Marie de Saint-Vincent-de-Paul, à Madame Roy, en lui exprimant, peu de jours après l'ouverture du refuge, le désir de se consacrer au service des pénitentes. D'autres femmes mariées qui se joignent à elle, des veuves. Et le 2 février 1856, la prédiction se réalise. Ce jour-là, Mgr Charles-François Baillargeon, administrateur du diocèse, établit la communauté en congrégation religieuse. Et là, les 7 fondatrices prononcent leur vœu de religion. L'évêque préside ensuite à l'élection de la supérieure, puis des conseillères, puis évidemment, Mme Roy devenue mère Marie du Sacré-Cœur, un beau nom, Marie du Sacré-Cœur, est élue supérieure. Marie du Sacré-Cœur, du cœur tout aimant, tout brûlant d'amour de Jésus. Souvent, on dit le Sacré-Cœur, et on pense que c'est une dévotion légère et superficielle, c'est une très grande dévotion à l'amour. L'œuvre de Madame Roy, dont on voit aujourd'hui la prospérité puis l'extension, est grandement due aux vertus religieuses qu'elle a pratiquées, cette fondatrice du Bon Pasteur de Québec. Depuis le jour où elle a fait ses vœux de religion jusqu'à sa mort en 1885, le 1er septembre. En tout temps, elle a prouvé combien était grand son amour des âmes, grand le zèle de sa perfection, grand aussi son sentiment de compassion pour le pauvre et l'affligé. Quand s'ouvre la première école du quartier en 1851, elle veut y recevoir d'abord les enfants pauvres. Et plus tard, elle dit quelque chose de fantastique à l'une des directrices des études. Écoutez bien ça. Si vous n'avez qu'une place dans l'école, et que 2 enfants, l'une riche, l'autre pauvre, se présentent, donnez donc la préférence à celle qui n'a pas un sou à vous offrir comme dédommagement de votre apostolat. Que c'est beau. Avec beaucoup de sollicitude, elle recommande que l'on garde les plus pauvres, les cœurs innocents. Et elle tient à ce qu'on leur donne une instruction solide et sérieuse du catéchisme, qu'ils sachent vraiment à quoi ils croient, pourquoi ils croient, et ce que ça donne de croire. Ça donne Dieu vivant. Durant les dernières années de sa vie, la difficulté qu'elle a de marcher l'oblige de garder presque toujours sa petite cellule. Elle n'en sort que bien rarement. Oh, elle en sort que pour se rendre à la chapelle, où elle assiste aux principaux exercices, après quoi elle continue de prier devant le Très-Saint-Sacrement, parfois durant des heures entières. De retour dans sa cellule, elle entremêle ses lectures, ses chapelets et d'autres exercices de piété tout simple, des travaux à l'aiguille qu'elle remplace par le tricot quand sa vue est fatiguée. Elle n'arrête jamais. Elle se serait fait un scrupule de perdre une minute qu'elle aurait pensé dérober aux pauvres qu'elle aime. Elle veut toujours travailler pour les pauvres. On conserve à la communauté du Bon Pasteur à Québec des ouvrages de couture qu'elle a achevés peu de jours avant sa mort. Et ces ouvrages sont faits avec la même perfection qu'au plus beau jour de sa vie, quand elle n'était surpassée par personne dans ce qu'on appelle le fini de l'exécution. Elle est tout à fait comme la femme forte de l'Évangile, celle qu'on appelle la femme de l'Évangile, on retrouve ça dans la Bible, elle est d'un prix qui l'emporte sur toutes les pierreries. Le cœur de son époux se confie en elle, et il voit l'abondance s'accroître dans sa maison. Elle travaille le lin et la laine, et le conseil préside à l'ouvrage de ses mains. Elle a compris et vu que ses œuvres sont bonnes, Sa lampe ne s'est pas éteinte durant la nuit. Elle a porté la main à la quenouille et ses doigts ont tourné le fuseau. Elle a ouvert sa main aux pauvres. Elle a tendu ses deux mains vers l'indigent. Elle est revêtue de force et de beauté, et son dernier jour sera plein de joie. Chacun de ces traits de la femme forte de l'Évangile sont reproduits dans la vie de la fondatrice du Bon Pasteur de Québec, Marie-Joseph de Fitzpac. Et après 35 ans employés au service du Christ et au salut des âmes, celle que l'on appelait maintenant Mère Marie du Sacré-Cœur voit arriver sans effroi sa dernière heure. Elle avait tant donné à Dieu qu'elle s'abandonne facilement à lui. Et voyant son œuvre féconde, bien affirmée, elle oublie les mille épreuves de son passage ici-bas pour ne s'occuper que de Dieu. Et cette grande, grande fondatrice québécoise, entourée de vénération, elle s'est endormie dans le Seigneur. À 79 ans, le 1er septembre 1885. Alors, toutes les classes de la société de Québec, et même d'ailleurs, particulièrement le clergé et les congrégations religieuses, se sont associées au deuil de la communauté du Bon Pasteur de Québec. Et Mgr Elzéar Alexandre Taschereau, alors archevêque de Québec, a voulu, pour honorer cette défunte, chanter lui-même le service. Il s'est exprimé de façon remarquable au milieu du silence de la foule. Il a dit à un moment donné, « Pour vous, mes sœurs, ce ciel sera d'autant plus beau que vous aurez travaillé à imiter votre mère. » Dans son humilité profonde, sa charité inépuisable pour le salut des âmes, il sera d'autant plus beau que vous aurez conquis plus d'âmes à Dieu. Il sera d'autant plus beau, ce ciel, que vous aurez pratiqué cette charité en vous sanctifiant vous-même, puisque vous représentez le bon pasteur qui court après ses brebis et les ramène au bercail. On rapporte de Saint-Ignace que lorsque le ciel s'était bien étoilé, que les astres jetaient leur vif éclat, il disait « Oh, que la terre me paraît vile quand je considère le ciel. » Et Mgr Taschereau disait, c'est aussi la parole de la fondatrice du Bon Pasteur, ou plutôt, c'est la parole de Dieu. Au moment donc de l'inhumation, c'est un spectacle vraiment touchant que de voir les deux filles de cette fondatrice, deux sœurs de la Charité de Québec, s'agenouiller en pleurant près du cercueil déposé au bord de la fosse. Ces deux filles qui disaient un suprême adieu à celle qui leur avait donné le jour. Dénommées servantes du cœur immaculé de Marie au jour de leur incorporation religieuse, les sœurs du Bon Pasteur de Québec perpétuent dans le temps et l'espace l'œuvre qui a été inaugurée il y a près de 150 ans, en 1850, par leur fondatrice au grand courage. Les femmes en situation de détresse morale réclament toujours leur assistance. L'éducation de la jeunesse aussi leur tient toujours à cœur. Et même les terres lointaines qui s'ouvrent de plus en plus devant elles, les décennies ont passé, mais les gestes de courage et de charité sont demeurés. Avec le temps, en effet, le charisme bon pasteur, comme on l'appelle, ne s'est pas tari dans la région de Québec. Il est passé dans les veines de quelques 2000 jeunes adultes. 2000 jeunes adultes. Il est devenu une tradition vivante là-bas, mais qui s'effondre petit à petit avec les années ces jours-ci. Tout s'effondre au Québec dans les vocations. Qui va répondre? Comment se fait-il qu'on ne réponde pas? Avec foi et audace, les sœurs du Bon Pasteur ont misé, elles, leur vie sur Jésus-Christ. Encore et toujours, elles se dépensent au service d'un monde bouleversé, blessé, en quête d'un supplément d'âme. Au décès de la fondatrice, en 1885, la communauté avait déjà célébré 172 professions. Puis les générations ont succédé. Aujourd'hui, à près de 150 ans de son existence, la congrégation compte 1000 religieuses professes. Et puis, quelques novices, quelques pré-novices, quelques aspirantes dans des pays lointains. Les décès se sont multipliés. Le premier date de 1861 et depuis là, il y en a eu plus de 1000. Il y a donc un partage égal entre le bon pasteur au ciel et celui de la terre où on travaille, où on pérégrine un peu partout. Si, au jour d'un passé pas très lointain, les communautés religieuses du Québec ont connu évidemment des périodes d'apogée fantastique, où les remises en question ne semblaient pas devoir s'imposer. C'est puis la même chose aujourd'hui, et les changements accélérés de notre société en mutation vers la descente ont bousculé les institutions d'Église. Les beaux et vastes édifices bâtis à coups de foi puis d'abnégation ont encore pignon sur rue peut-être, mais pour la plupart, ils ont changé d'enseigne. Le bon pasteur n'a pas échappé au phénomène. Non. Mais c'est-à-dire que pour autant les religieuses ont quitté le paysage, non, il en reste encore. Elles sont têtues, les sœurs. Leur charisme est tenace. Hein? Il est vrai qu'elles n'occupent plus à grand renfort les classes dans nos écoles, le chevet des malades, les unités de centres d'accueil, mais ce qu'elles accomplissaient autrefois à l'intérieur des murs. Elles le font à ciel ouvert et sous des toits plus accessibles des fois. On les retrouve en plein milieu paroissial, au service de nouveaux publics, et dans des champs d'évangélisation encore inexplorés. Ces pauvres femmes, finalement, que l'on ne connaît presque plus, sont confrontées à des défis de taille. Les sœurs du bon pasteur de Québec, comme toutes les autres sœurs des grandes congrégations du Québec, ont inventé de nouvelles voies d'expression. Mais leur charisme de miséricorde, aux multiples communications d'amour et de bonté, suscite encore le même geste qui porte et qui dure. J'étais désolé. Et vous m'avez visité. J'étais en détention et vous ne m'avez pas renié. J'étais sans espoir et vous m'avez fait confiance. J'étais sans foyer et vous m'avez aimé. J'étais sans travail et vous m'avez initié au service. J'étais seul et inquiète et vous m'avez tendu la main. J'étais assoiffé de connaître et vous m'avez enseigné les choses de Dieu. J'étais en recherche et vous m'avez révélé la joie de la vie donnée. J'étais bien portante et vous avez veillé sur moi. C'est dans des cadres bien plus restreints aujourd'hui que travaillent les sœurs. Chacun peut venir puiser à l'amour de Jésus auprès d'elles. Les bras des sœurs se font toujours accueillants. Leur cœur est toujours inlassablement attentif. On voudrait bien que les noviciats d'aujourd'hui préparent une relève ardente et généreuse. Il n'y en a pas beaucoup qui se présentent. Loin d'éteindre leurs lampes, les sœurs du bon pasteur de Québec en ont allumé dans d'autres parties du monde, aux États-Unis, dans les États de la Nouvelle-Angleterre. Les sœurs du bon pasteur se sont implantées dès 1882. On en trouve depuis 1935 au Lesotho, dans le Sud-Afrique, puis en d'autres pays d'Afrique. Il y en a aux îles Comores, mais en Tunisie même, en Tunisie, au Zaïre, au Rwanda. Elles ont travaillé un peu partout, en Haïti aussi. Chères sœurs du bon pasteur, c'est leur fondatrice, Marie-Joseph Fitzpack, qui leur disait, « Dites-leur aux novices que je leur recommande d'être de saintes religieuses, qu'elles aiment bien le bon Dieu. Ce n'est pas que j'ai été bien sainte moi-même, mais je puis dire que j'ai toujours aimé le bon Dieu, et mon plus grand bonheur était de le faire aimer. Mon plus grand bonheur était de le faire aimer. Si vous allez à la messe aujourd'hui, vous lirez l'Évangile. Un possédé qui dit à Jésus, « À que nous veux-tu, Jésus Nazareth, es-tu venu pour nous perdre ?»« Je sais fort bien que tu es le Saint de Dieu. » Et Jésus lui dit, « Silence, sors de cet homme. » Et alors le démon le jeta par terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Et on se disait, « Quelle est cette parole ?» Car il commande avec autorité et puissance aux esprits mauvais, et il sort, et la réputation de Jésus s'est propagée dans toute la région. Oui, Jésus s'est propagé grâce à Marie-Joseph Fitzpatrick.